Je crois que nous allons commencer, et je dois dire que je suis très intimidé d'avoir à mener un entretien avec Catherine Valente, parce que elle a écrit un nombre énorme de livres. C'est une auteure couverte de prix, hein, pour le mentionner. Elle a quand même eu le prix André Norton en 2009 pour l'un des livres dont nous allons parler, le James Tiptree Award pour un autre roman qui n'a pas été traduit en français dont nous allons parler. Elle a eu un Hugo Award pour la meilleure fancast fiction en 2013, et surtout elle a réussi un exploit quasiment inégalé, qui est d'avoir le prix Locus en 2012 dans trois catégories différentes la même année. Donc bravo. Et j'avoue que, alors, Catherine a en plus de ça une culture classique en latin, grec ancien, très importante, au point qu'elle a écrit plusieurs essais, entre autres sur les archétypes féminins dans le théâtre grec et romain antique. Bon, elle a écrit aussi un livre sur les mythes des origines. C'est une grande voyageuse, hein, puisqu'elle a vécu entre autres au Japon et en Australie. C'est aussi une grande poétesse. Elle a écrit, elle a publié plus de 5 volumes de poésie. Elle a écrit un grand nombre de nouvelles. Alors, Catherine Valente, vous me direz si je me trompe, mais moi j'ai compté à peu près 60 nouvelles.
That sounds plausible. I haven't counted them, so I don't entirely know. No, you know, it must be more than that, because for 5 years I did something called the Omikuji Project, where I wrote a short story every month that I printed out on archival paper and sealed with a wax seal and mailed all over the world. And only the subscribers read those stories. So even those 5 years would be 60. So if we add the 60 you counted on top of that, I suppose that would make it 120. That seems absurd. I need a hobby.
Yes. En fait, si je réfléchis bien, je pense que j'en ai même écrit plus que ça, parce que j'ai participé à un projet qui s'appelait le Omikuji Project pendant 5 ans. Et dans ce cadre, j'écrivais une nouvelle par mois. Et ensuite, je l'imprimais sur du papier d'archive de grande qualité. Je mettais un sceau. Et puis ensuite, je l'envoyais. Mais seuls les souscripteurs recevaient leur exemplaire. Et donc, si on ajoute tout ça... En 5 ans, ça fait déjà au moins 60 nouvelles pour ce projet, plus les autres que j'ai écrites. Je pense qu'on arrive peut-être plutôt à 120 au final, ce qui est vraiment ridicule quand on y pense. Je crois que j'ai vraiment besoin de trouver un autre violon dingue.
Et si l'on rajoute à cela que vous avez écrit, Catherine Valente, si je ne me trompe, environ 20 romans.
Just about right. It sort of depends on whether you count standalone novellas as novels, but yes, there's a lot. Let's just say there's a lot.
20 romans et 2 novellas.
Oui, oui, c'est à peu près ça. Enfin, ça dépend si les novellas, donc c'est-à-dire ces formes un petit peu à mi-chemin entre la nouvelle et le roman, en one shot, si vous les considérez comme des romans, oui, oui, c'est ça. Donc,
Jean-Luc said that you wrote 20 novels and 2 novels.
Oh, it's more than 2. Silently and Very Fast, Six Guns Snow White. Refrigerator Monologues is coming out shortly, Under in the Mirror, and then technically the Book of Dreams is also a novella. Let's not get tied up in numbers, but there's a number of them.
Oui, non, il y en a même beaucoup plus que ça. Si je compte, j'ai écrit Silently Very Fast, Six Guns Snow White, what was the other one? Under in the Mirror. Mais bon, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques dans les chiffres.
Donc, vous imaginez combien j'étais impressionné quand j'ai commencé à me plonger dans les écrits de Catherine Valente, qui sont tous passionnants. Et si j'ai insisté un petit peu sur la culture et la poésie, etc., de Catherine, c'est parce que ce sont pour moi des caractéristiques absolument frappantes de son style d'écriture. J'ajouterai, et on va commencer ensuite vraiment à laisser parler Catherine, je me tais après ça, ou presque. Elle a écrit en plus dans tous les domaines de l'imaginaire, fantastique, urban fantasy, fantasy pure et de la science-fiction. Donc c'est vraiment un auteur complet quelque part. Alors Catherine, si vous le voulez bien, on va peut-être commencer par les ouvrages, pour donner une idée aux personnes ici présentes. On va commencer par les ouvrages que nous n'avons pas encore le plaisir de pouvoir lire en français. Il y a un diptyque de fantasy qui s'appelle The Orphan's Tales, hein, In the Night Garden et In the Cities of Coin and Spice, qui sont tout à fait particuliers. Peut-être pourriez-vous nous en parler un petit peu.
The Orphan's Tales is, as you say, it's a two-book, it's a duology. It is something of an updating of the Arabian Nights. It has a frame narrative, and within that frame narrative, as Scheherazade did, characters will tell their own stories, which breaks into new tales, and it's kind of like Russian nesting dolls all the way down, but they... Unlike Arabian Nights, they come back together to be a complete story. So it involves a young girl who is living alone in the palace gardens because she has been outcast from the other families because she has a birthmark that covers her eyes, makes them quite black. And they are stories written so closely on her eyelids that they appear just as one black mark.
Oui, alors The Orphan's Tales, oui, c'est donc un diptyque, comme vous le disiez, et c'est une sorte de revisitation des Mille et Une Nuits. Donc, il y a un cadre narratif qui est là, un contexte. Et donc, comme chez Scheherazade, eh bien, chaque personnage doit raconter des histoires. Et ces histoires s'emboîtent un petit peu comme des matrioshkas. Mais au contraire, à l'inverse des Mille et Une Nuits, à la fin... tous ces récits finissent par se retrouver et former une unité, une entité. Il y a donc nous suivons une jeune fille qui est un petit peu ostracisée de sa famille parce que elle a une tache de naissance sur les yeux qui font que ses yeux sont un petit peu noirs. And you said that, her eyes are tattooed, stories are tattooed on her eyes, right? Okay. Elle a des tatouages de naissance et des tatouages sur ses yeux et ça lui donne un aspect un peu différent qui fait qu'elle est rejetée.
It's a difficult book to sort of describe because there are so many small stories within the larger narrative. And so when I say it's an updating of the Arabian Nights, I don't mean that it's set in the modern time. It's not. But the tales are more focused on the women in the stories and on the sort of silenced voices of all of these folk tales coming to the fore instead of being in the background.
Oui, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de cette œuvre parce qu'il a quand même une très grande, il est de grande envergure quand même. Quand je dis que c'est une revisitation des Mille et Une Nuits, je ne veux pas dire que c'est une transposition à l'époque moderne. Ce que je veux dire, c'est que donc ce sont des contes, mais que ma façon de renouveler un peu ça, ça a été de me centrer sur les personnages féminins, sur ces voix qui étaient un petit peu tues dans les Mille et Une Nuits.
Vous avez écrit aussi. Alors, on va pas aller dans l'ordre chronologique parce que je voudrais donner à nos amis ici présents un panorama de ce que vous avez fait. Donc, on va pas suivre un ordre de parution chronologique. Et par exemple, vous avez écrit aussi récemment un roman qui de science-fiction qui s'appelle Radiance, qui est tout à fait extraordinaire, parce que quelque part, il me semble-t-il, vous avez, alors c'est un monde dans lequel on suit une aventure de cinéma, ça se passe dans le monde du cinéma, dans un système solaire qui est complètement différent du nôtre.
It is an alternate history in which space travel is discovered around 1870, the ability to travel in space. And the progression of the late 19th century and 20th century, instead of being focused on working out of the colonial issues on Earth, is spread out through the solar system as the colonial powers take over these planets. And it follows the daughter of one of the most famous filmmakers of the time, who is a director of fantasy films, of gothic noir romances. And she reacts against that, becomes a documentary filmmaker, determined to find the truth, and she disappears during a shoot on Venus, and the story follows everyone trying to figure out what happened to her.
Oui, en fait, c'est vrai, c'est une sorte de version alternative de l'histoire que je livre dans cette œuvre. En fait, je me penche en fait sur le voyage dans le temps, et dans l'œuvre en fait, la capacité, la possibilité de voyager dans le temps, les humains l'ont depuis 1870. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un petit peu, alors que dans la vraie histoire, à la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle, les nations essayaient de se dépatouiller un petit peu de leur histoire coloniale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement donné un autre enjeu à l'humanité, c'est j'ai élargi ça à à un niveau un peu intersidéral, et en fait toutes ces questions post-coloniales se propagent jusqu'à un système solaire qui est différent du nôtre, et on y suit justement, comme vous le disiez, ça se passe dans le milieu, dans l'industrie du cinéma, on y suit la fille d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, qui donc est un grand spécialiste du film noir, gothique. Et sa fille, elle, par rébellion contre son père, décide, elle, de plutôt faire du documentaire. Et puis ensuite, alors, elle disparaît mystérieusement sur Vénus, et puis personne ne sait ce qui lui est arrivé. C'est un mystère.
And one of the important aspects of Radiance is that the solar system, unlike ours, is completely inhabitable. Each of the planets can support life and have animals and a functioning ecosystem, which is obviously nothing like our own planets. I was very inspired by pulp science fiction of the Golden and Silver Age, back when we didn't know that we wouldn't be able to live on these planets. I wanted to return to that kind of science fiction. We have Venus is a swampy water world, as it was in some of the very old science fiction novels. Neptune continues to be all one ocean. France owns Neptune. There are floating cities. America gets Pluto. So all the crazy people are out on the tiny little Pluto. And it's all fueled by the only truly alien species, sentient species that has been found, the calla whales on Venus, who secrete a fluid milk that allows humans to deal with the differences in gravity and radiation on other planets. They come in a lot, the space whales.
Oui, donc dans Radiance, ce qui est intéressant, c'est que ce système solaire que j'ai créé est complètement habitable et habité, à la différence du nôtre. Chaque planète est peuplée d'animaux, elle a un écosystème qui fonctionne. Donc je me suis beaucoup inspirée de la science-fiction la pulp science-fiction de l'âge d'or, si je puis dire, qui avait été écrite à cette époque où on n'avait pas encore réalisé que on ne pourrait pas conquérir toutes les planètes du système solaire. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu à cette période-là. Par exemple, Vénus, est une sorte de planète toute marécageuse. Neptune, eh bien, reste couverte d'océans. Il y a des villes flottantes un peu partout. Donc, c'est les Français qui ont annexé Neptune. Alors, les États-Unis, eux, ils ont hérité de Pluton. Donc, il y a un petit peu tous les fous, les gens un petit peu allumés qui se retrouvent là-bas. Et tout ce système solaire, eh bien, il est un petit peu entraîné par la seule espèce.
The Callowell, they're the only species.
Sentient.
Mm. Okay. La seule espèce qui soit douée de conscience, ils s'appellent donc les Callowell, et ils ont donc inventé un fluide qui est très précieux puisqu'il permet de justement composer avec les différences de gravité et de radioactivité entre les différentes planètes. Et donc ils reviennent assez souvent justement ces êtres, les Callowell.
D'ailleurs, votre livre Radiance est imprégné d'un sens de l'humour très profond. Je pense en particulier à un moment où il y a la publicité qui est faite par cette compagnie qui envoie les plongeurs sur Vénus pour exploiter les Callowells, et le lait de ces baleines, c'est aussi bien formidable à manger que comme bâtiment que pour construire des bâtiments, enfin ça a tous les usages possibles et imaginables. C'est excessivement drôle.
I love comedy and I very much believe in including it in even my most serious books. Very often science fiction and fantasy takes itself extremely seriously, but that's not how we live in the real world. In the face of the most horrifying or awe-inspiring things, we often make jokes, and I absolutely try to incorporate that in my books. I'll let you get through that for me.
Thank you. Oui, mais j'adore tout ce qui est comédie, tout ce qui est comique, et je mets un point d'honneur à toujours incorporer des éléments de comédie, même dans mes livres les plus sérieux, les plus dramatiques. Parce que je trouve qu'en science-fiction, en fantasy, on a tendance à un peu trop se prendre au sérieux. Alors que dans la vraie vie, dans notre monde, c'est pas comme ça qu'on réagit. Parce que même au milieu des pires tragédies, on continue à faire des blagues, et c'est un peu comme ça qu'on s'en sort.
The advertisements in part come from my father and my grandfather are both in advertising all their lives. And I had written a short story called Fade to White, which is also an alternate history of the United States, where it was partly irradiated during the Second World War. And I had used that technique in that story and enjoyed writing it so much that I ended up taking it in through Radiance as well. Advertising is how a culture talks itself into continuing as a culture, I think.
Oui, donc quant à l'histoire de cette publicité dont vous parliez, eh bien, en fait, il faut savoir que mon père et mon grand-père travaillaient tous les deux dans la publicité. Donc, c'est une source d'inspiration pour moi. Et j'avais écrit justement une nouvelle qui s'appelait Fade to White, dans laquelle justement je mettais en scène les États-Unis, mais qui aurait été en partie irradié pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette histoire m'a tellement plu justement que j'ai décidé de l'inclure dans Radiance. Je trouve que oui, la publicité, l'industrie de la publicité, c'est un peu un de ces moyens que les sociétés trouvent pour justement continuer à auto-alimenter leur propre culture.
Alors, vous avez écrit un autre roman et on passe aussi dans un univers, là encore, complètement différent. Autre roman passionnant et je dirais presque inclassable, qui est Palimpseste.
Yes. Yes, I usually tell people that Palimpsest is about a sexually transmitted city. and then I remember the look on their face as they try to sort that out. The idea of Palimpsest is that there is a place that you can only get to by sleeping with another person who's been there. And it manifests in marks on their skin that are like pieces of a map to this place. And as you might imagine, people become quite addicted to this. There's a very intense subculture around it in our world of people trying to get there.
C'est vrai que c'est un livre assez atypique, si on pourrait le dire. Souvent, quand les gens me demandent de le définir, je dis que c'est un livre qui parle d'une ville sexuellement transmissible. Et là, ensuite, en général, ça m'amuse quand je repense à l'expression que je vois sur le visage des gens quand je leur dis ça. Et donc, c'est vrai que dans ce palimpseste, en fait, il existe un endroit où que l'on ne peut atteindre que si on a couché avec quelqu'un qui vient de là-bas, qui est déjà allé. Et quand justement on a consommé comme ça, eh bien, on devient marqué. On a des fragments justement de la cartologie de cet endroit, Palimpseste, qui se tatoue sur notre peau. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les gens, les personnages deviennent complètement accros, en fait, cette ville. Et il y a toute une sous-culture, qui naît justement à propos de cet endroit, de cette ville.
Et Palimpseste fait partie de ces romans dans lesquels vous ne donnez que un ensemble de petites scènes, de petits tableaux, et en fait, vous laissez le lecteur se faire lui-même la carte et l'image de la ville.
Oh, I think I wrote more than a few scenes. It's quite a long book. I did the book alternates between events in our world and events that are occurring in Palimpsest. And I certainly hoped that Palimpsest is a city of desires, a city where desires become manifest. And I certainly hoped that in the negative spaces in the novel, the reader would insert their own desires and their own ideas of what a perfect city would be, a city where the distance between wanting something and having it is so short. I mean, we've talked about Orphan's Tales, we've talked about Radiance. These happen to be books that do tell a story through small pieces, almost a pointillist method.
Oui, non, mais j'ai écrit quand même plus que des petites scènes, mais en fait, oui.
Parce que Jean-Luc talked about a set of scenes, oh, and not only scenes. So my mistake.
It's okay.
Yes. A set of small scenes.
Like Radiance.
Like Radiance, yeah.
Oui, parce que dans Palimpseste, justement, Palimpseste est vraiment cette ville du désir, cette ville où le désir se manifeste et devient apparent. Mon idée, c'était justement de laisser que dans les endroits un petit peu négatifs, les interstices, les failles, de permettre aux lecteurs d'insérer leur propre désir, justement. Parce que dans cette ville, justement, Palimpseste, on voit que la distance entre le désir, l'envie de quelque chose et le fait d'avoir cette chose vraiment concrètement, cette distance est presque réduite à néant. Et donc oui, voilà, on a parlé de Radiance, on parle de Palimpseste, et c'est vrai, comme vous le dites, que oui, je travaille un petit peu comme ça aussi, par touche, par scène, un petit peu à la manière d'un pointilliste.
And I know what kind of writer I am. I know that my writing is often very rich and lyrical and dense. And so it's quite deliberate to present it in small pieces. You can think of it as small plates at a restaurant that are very deliberately and elegantly constructed, but never meant to overwhelm the senses. Italo Calvino wrote in a book called Six Essays on the Future of Writing that he felt in the 80s that this would become a common technique. And I think I didn't even fully understand that that's what I was doing until I read Calvino's essay on it.
Oui, je sais quel genre d'auteur je suis. Je sais que mon écriture a tendance à être très riche, très lyrique, très, très dense. Et donc, je crois que c'est une décision vraiment consciente de ma part de travailler comme ça, par fragments, par touches. J'essaye un petit peu de constituer des assiettes, un petit peu nouvelle cuisine, qui sont bien, bien arrangées, voilà, de manière très élégante et de façon à ne pas être trop bourrative. À ne pas voilà, prendre trop de place et à ne pas à laisser quand même les sens s'exprimer. Et d'ailleurs, Italo Calvino avait écrit un essai justement à propos de cette façon d'écrire par touche dans les années 80. Mais bon, moi, je n'ai lu cet essai-là que plus tard, en fait, après avoir commencé à travailler comme ça.
I mean, I think it's interesting that we're talking about Orphan's Tales and Radiance because I was very young when I wrote The Orphan's Tales. I was 22 when I began it. And I did it then because I didn't really know how to write a novel yet. I only knew how to write small pieces. And so it was kind of a cheat. But I wrote Radiance only a few years ago. And I did it then because it seemed to me the best way to communicate this gigantic solar system full of stories. So I used to do it because I didn't know any better, and now I do it on purpose.
Oui, c'est intéressant qu'on parle à la fois de The Orphan's Tale et de Radiance. Parce que j'étais très jeune quand j'ai écrit The Orphan's Tale. Je n'avais que 22 ans quand j'ai commencé. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas encore vraiment. Je n'avais pas les armes pour écrire un roman à part entière. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai travaillé par fragments, par petites pièces, petites scènes comme ça. En fait, c'était un petit peu, comment dire, un moyen un peu de tromper les gens. Mais par contre, Radiant, je l'ai écrit beaucoup plus récemment. Et en fait, il a pris une forme autre parce que eh bien, c'est la forme dont j'avais besoin pour raconter l'histoire de cet énorme, immense système solaire ramifié.
Alors, j'ajouterai, je précise bien pour que ce soit très clair, que lorsque j'ai fait cette remarque, il ne s'agissait absolument pas d'une critique du style d'écriture. Bien au contraire, j'étais admiratif de la manière dont Catherine écrit. Et je trouve que ça fait une lecture fascinante, aussi bien dans Radiance que dans Palimpsest, que de ce soit le lecteur qui mette bout à bout ces scènes et qui fasse les relations. J'ai trouvé ça formidable. Hein. Je voulais que ce soit clair.
I didn't in any way take it as negative. I am perfectly happy making self-deprecating comments about my books sometimes. That doesn't quite come off in translation, possibly. But when I was younger, I used to get very defensive when people said that my very early books, like The Labyrinth, were just long poems, or that The Orphan's Tales was a workaround of traditional narrative because I wasn't a very trained writer. But now I'll fully admit that that's true. All that's true. It's all true.
Ah non, mais j'avais pas du tout pris votre remarque comme une critique. J'avais pas du tout mal pris. Hein. Et puis de toute façon, je suis la première hein, à parfois, dénigrer mon propre travail, mes propres livres. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que parfois j'étais un petit peu plus susceptible, un petit peu plus sur la défensive. C'est vrai qu'on a pu me, en parlant de The Labyrinth, mon premier ouvrage, en disant que c'était rien de plus qu'un long poème, ou bien quand on m'a parlé de The Orphan's Tales, en me disant que c'était rien qu'une sorte de remâchage de contes folkloriques que j'avais écrit parce que justement je savais pas écrire mes propres ouvrages, oui là ça j'ai pu mal le prendre, mais bon maintenant si on me redisait ça, eh bien je le prendrais très bien et je contredirais sans doute pas.
Alors maintenant, Catherine, passons au premier roman qui a été de vous, qui a été traduit en français, et malheureusement, je dis bien malheureusement, très mal distribué à l'époque, qui est Deathless, qui est paru en français sous le nom de Immortel, et qu'on peut peut-être encore trouver de temps en temps d'occasion, et qui est un roman où là, on vient un petit peu, c'est, comment pourrait-on le définir, une sorte de conte de fées chez les soviets.
It's a retelling of the classic Russian folk tale of Marya Moevna and Koshchei the Deathless, set during the siege of Leningrad, during the whole period from the beginning of the Russian Revolution all the way through to just after the end of World War II, but very focused on the siege of Leningrad. And so, in some sense, it's a more magical realist novel. It deals with very real, very serious history, and it's well.
Oui, en fait, c'est une sorte de réécriture d'un conte folklorique classique russe qui s'appelle
Marya and Koshchei the Deathless.
Marya and Koshchei.
Yeah.
Okay.
That's fine.
Yeah, okay, I'm sorry.
It's okay.
I should know that.
It's hard to pronounce.
Et donc il ce conte voilà se déroule sur toute la période entre la révolution bolchévique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et c'est principalement centré sur le siège de Leningrad. Et il y a énormément de réalisme magique en fait dans ce livre. Il est plutôt dans le réalisme magique que dans l'historique en fait.
And I hope, part of a long tradition of Russian novels that deal with political issues through the lens of fantasy and science fiction and folklore. For a long time, that was the only way you could critique the government in a novel, was by having Baba Yaga do it instead of Stalin. And so I very much wanted to write a book in that tradition, and show how the fantasy genre can speak to the most serious of issues in the real world.
Oui, donc j'ai voulu un petit peu m'insérer ou faire un hommage à cette cette tradition du roman russe qui abordait les problèmes politiques, mais à travers le prisme justement du fantastique, de la science-fiction ou du folklore. Parce que pendant très longtemps en Russie, évidemment, la seule manière de pouvoir dénoncer le gouvernement ou les agissements des politiques, le régime, eh bien, c'était de vous arranger pour que Baba Yaga le fasse à votre place, ou que ce soit Baba Yaga qui soit mise en scène et pas Staline. Et donc j'avais vraiment cette envie d'écrire un livre qui s'inscrive dans cette tradition-là.
Et est-ce que... Moi, j'en ai fait aussi une lecture. Il me semble que vous faites dedans un parallèle entre la décadence et la ruine de la ville, donc Saint-Pétersbourg, Leningrad, etc., et qui correspond au déclin et à la ruine des croyances traditionnelles. Est-ce que c'est une lecture qu'on peut en faire aussi ?
I mean, it's certainly, it's all of a piece in that era. It's the old world coming to an end, both physically and psychologically and very, quite literally, explosively. And so absolutely all of that is part of it. The city being torn to pieces while at the same time all of the ancient beliefs are feeling that they are no longer relevant to people. So that is a major theme of the novel. It is also one of my funniest books, I think, making it sound as though it's very dreary, and parts of it are, but it's full of gallows humor, which is another hallmark of Russian literature, and one of the scenes that people seem to like best is the house elves having the meeting of their Soviet to administer all of the resources of the house, just the same way that the revolutionaries did, because they don't want to be left out of the revolution.
Oui, c'est vrai que tout ça, ça forme un tout quand on parle de cette époque-là. Cette époque, justement, où le vieux monde était justement arrivé au bout de son déclin, à la fois pour ce qui est en termes physiques qu'en termes psychologiques. Et cette idée que la ville tombait complètement en ruine à mesure que, justement, les croyances anciennes se rendaient compte qu'elles ne voulaient justement, elles ne représentaient plus rien aux yeux des hommes. C'est vrai que c'est un des thèmes principaux de l'ouvrage. Mais bon, je voudrais aussi ajouter que c'est un roman aussi très très drôle, hein, parce que là, en en parlant, on donne l'impression que c'est quelque chose de très très glauque. Mais parce qu'il est, il est vraiment truffé d'humour un petit peu goguenard, qui est un peu une marque de fabrique de la littérature russe. Je pense justement à cette scène où il y a des elfes domestiques des elfes, voilà, on les voit à la maison, et
it's a committee. So during the revolution, many families were made to live in the same house, and there would be a house committee to make decisions. And so the house elves, who are in Russian folklore, who are tied to the house, have the same thing as all of these elves from different parts of the city are made to live together instead of their own houses. Mm-hmm.
Ok, oui, bon, comme vous saviez, du temps des soviets, c'est vrai que les gens vivaient à plusieurs foyers sous le même toit, et donc là j'ai reproduit ça, et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve justement ces personnages folkloriques des elfes domestiques du folklore russe, et qui eux aussi étaient acceptés au sein de ces sortes de communautés, de comités familiaux.
Oui, je confirme, c'est une scène qui m'a fait hurler de rire quand Maria est entraînée chez les Domovoy, donc qui sont les lutins domestiques, et qu'elle découvre avec stupéfaction qu'ils forment un soviet, parce que les temps changent et le Domovoy nouveau, il est en marche. C'est absolument hilarant. On va passer maintenant, parce que le temps tourne, à ce qui a fait la série, une série qui a fait un grand succès pour Catherine Valente, qui lui avait valu ici le prix Imaginal. C'est la fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains. Maintenant, nous avons aussi le second volume en français, La fille qui tomba sous Féerie et y mena les festoiements. Alors, les titres sont un petit peu longs. Et d'ailleurs, et les titres et les sous-titres des chapitres le sont tout autant. Alors peut-être, Catherine Valente, pourriez-vous nous dire d'abord pourquoi?
So it's such a strange combination of modern reasons and ancient reasons. The story of how Fairyland came to be is a very odd one. The book we spoke of, Palimpsest, the protagonist of that novel, her favorite book when she was a little girl was The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making. It was never meant to be a real book. It was just a character moment in the other book.
Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ces titres à rallonge, en fait, c'est vraiment une sorte de mélange un peu étrange entre, donc il y a à la fois des raisons qui remontent à loin et des raisons plus modernes. En fait, l'histoire justement la genèse, si je puis dire, de la série Féerie est vraiment étrange. En fait, on parlait de Palimpseste tout à l'heure, et dedans, la protagoniste, on retrouve une jeune fille dans Palimpseste qui est ensuite devenue la protagoniste de la série Féerie. Mais à l'époque, dans Palimpseste, c'était juste un personnage un petit peu temporaire, secondaire.
So the title is long. I spoke about this briefly during opening ceremonies because I was making a joke that only I found funny. Because this was supposed to be a very old book that she loved. in the early 20th century, late 19th century, oftentimes children's novels had these long, elaborate titles and just referred to whatever the magical world was as generic fairyland. And I thought it was funny. But I also thought no one would ever, this would never be a real book, so why would that ever be a problem?
Oui, donc le titre, c'est très long, et j'en ai parlé pendant le coup d'envoi, d'ailleurs. Et en fait, c'était juste une blague qui ne faisait rire que moi, à la base. Parce que donc, je voulais faire une référence, justement, à ces livres, ces romans pour enfants qui étaient publiés dans, au XVIIIe ou XIXe siècle, voilà, et qui parlait justement de monde féerique, de créatures merveilleuses, et qui avait des titres comme ça, un petit peu à rallonge. Et puis de toute façon, je pensais que ce livre, que jamais il verrait vraiment le jour. Donc voilà, je pouvais un petit peu me lâcher comme ça.
But when I went on book tour for Palimpsest, people kept asking me, where can I find this book? It sounds wonderful. I looked in my library, but I couldn't find it. And so when I got home from my tour, the economic crash had happened, and we were having a lot of trouble. And so I decided that I would write Fairyland, because everyone had asked for it so many times. And I didn't think I was losing anything, because who would ever publish a children's book that was connected to the very adult Palimpsest?
Mais ensuite, quand je suis allée faire la promo du livre Palimpseste, en fait, justement, les gens me demandaient, mais ce livre-là, justement, que votre héroïne lit et qui a ce titre très, 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 très long, ben, il a l'air vraiment super. J'aimerais bien me le procurer, mais je ne le trouve pas. Donc, les gens croyaient que ce livre dont je parlais dans Palimpseste et qui a ensuite donné le titre d'une série ultérieure, croyaient vraiment qu'il existait. Donc, je me suis dit, mince, il faudrait peut-être remédier à ça. Et puis ensuite, quand je suis rentrée chez moi après cette tournée de promotion, il y avait eu la crise économique. Voilà, il y avait, j'étais un petit peu, j'avais des soucis financiers. Je me suis dit, bon, allez, je vais me mettre à écrire justement cette série de féerie. Et puis, de toute façon, oui, c'est ça. Je me disais, qui aura envie de lire ou, à plus forte raison, de publier ce livre pour enfants, mais qui fait écho à un livre pour adultes, Palimpseste.
And so, I posted a chapter of it every week on my website and recorded myself reading it. But in order to organize the chapters, I had a link to each chapter, chapter one, chapter two, on the site. And I thought that in order to get people to click, I should put a description of what that chapter would be underneath the link. And of course, this is an old, old, old technique. This is in Malory, Mort d'Arthur. And I loved the idea of using this very, very old technique in a very new technological sense.
Et puis ensuite, donc j'ai commencé à publier cette histoire, cette série sur Internet, chapitre par chapitre. Donc je lisais moi-même les chapitres et puis je les mettais en ligne. Et puis je me suis dit que pour donner envie justement aux gens de cliquer sur le lien, les liens, je devrais peut-être voilà résumer un petit peu leur parler un petit peu du contenu de chaque chapitre. Et voilà d'où l'idée de faire ces descriptions assez longues en début de chapitre. Et puis ce qui me plaisait, c'est que c'est vraiment une méthode voilà, très, très désuète. C'est Malory Murtaugh. C'est Malory Murtaugh faisait ça, par exemple. Et j'aimais beaucoup cette idée d'utiliser une technique voilà, désuète dans un contexte plus technologiquement avancé.
I was going to say, so Fairyland, despite many people saying that it has the feeling of a classic children's novel, it has that feeling in part because of its the circumstances of its creation being incredibly modern, which I've always enjoyed as a ironic moment.
Oui, en fait, Fairyland, malgré bon, voilà tout ce qu'on peut entendre, ce que les gens ont dit, c'était un roman assez assez classique. En fait, moi je trouve que ce qui est drôle, voilà, il a été vu comme un roman très classique, alors qu'en fait il est né dans un contexte qui est assez atypique et qui est surtout très très moderne et technologique. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, justement, l'ironie de la situation.
Alors, j'ajouterais que c'est une technique qui fonctionne très bien parce que quand vous commencez à vous plonger dans l'histoire donc de cette petite fille Septembre qui part en féerie, où elle est emmenée par le vent vert, etc. Chaque fois que vous arrivez à la fin d'un chapitre, vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un coup d'œil à ce qu'il y a au chapitre suivant. Vous dites, ah, allez, un chapitre de plus. Et finalement, vous terminez en ayant lu tout le livre. Et vous ne vous en plaignez absolument pas. Alors, ce que j'aimerais savoir un petit peu, Catherine Valente, c'est comment avez-vous créé cet univers de féerie qui est d'une richesse incroyable? Les personnages, mais aussi les décors. Par exemple, à un moment, les troupeaux de vélocipèdes, j'avoue qu'on est là, on est bouche bée. Comment avez-vous fait pour créer tout cet univers?
Well, so the first paragraph of Fairyland is in palimpsest, and it was very important to me to keep that the same, so that if somebody was growing up and they read Fairyland, they would recognize it in palimpsest if they read that as an adult. So I threw a bunch of details into that paragraph, never thinking I would have to make a real story out of it. And then, as part of the promotion for the book, I wrote probably about the first two pages of it. And again, I was just throwing whatever the most magical thing I could think of onto the page with no sense of responsibility to play any of it out or pay it off in any way.
Oui, alors le premier paragraphe de la série Fairyland vient de Palimpsest. Pour moi, je voulais vraiment garder cette similitude. C'était important pour moi que si quelqu'un qui avait lu la série Fairy en tant qu'enfant puisse retrouver cet écho si plus tard il lisait Palimpsest, qui est un livre pour adultes. Donc voilà, j'ai écrit ce premier paragraphe et puis ensuite, j'ai ajouté plein de détails un petit peu merveilleux, magiques, féeriques. Voilà, sans penser vraiment à créer une vraie histoire, je me suis plutôt fait plaisir. Et puis ensuite, quand j'ai dû
it was part of an alternate reality game that I and some of my friends created to promote the book, and so it was a bonus that you could find. It was an Easter egg.
Okay. Alors avec des amis, on avait inventé une sorte de jeu, un petit peu de réalité alternative, dans le but de faire la promotion du livre, de la série, et et donc voilà, dans ce cadre, il fallait que je puisse écrire un petit peu ce que contenaient les livres. Je me suis prêtée au jeu, mais sans penser aux conséquences, sans me dire qu'un jour, voilà, je devrais assumer une série entière et des livres à proprement parler.
I mean, to explain where all of the characters and details came from, I could go on all day, but I will tell the story of one, because I know that Robin Hobb was one of the guests here last year, and she brought her daughter, Kat, yep, who happens to be one of my best friends in the world and has been for, I suppose, it's coming on 15 years now. And so 10 years ago, maybe a little bit less, I knew that she was having a hard time. She was living far away from her family, and I knew she was sad, so I wanted to cheer her up. And I wrote her a story that was just for her, and it's still never been published, about a woman and her son going on adventures. Kat has a young son. And in that story, there was a kitten named A through L who had grown up in a library.
Mm-hmm. Oui, bah c'est vrai que je pourrais parler de mes personnages et de l'univers que j'ai créé pendant toute la journée, mais bon, je vais plutôt vous raconter l'histoire, la genèse de Féerie, parce qu'en plus, je sais que Robin Hood, qui a été l'invitée du festival l'année dernière, il me semble, elle était venue avec sa fille, Kat. Kat, qui est donc une de mes meilleures amies. Je crois que c'est ma meilleure amie au monde, et ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît. Et il y a à peu près 10 ans de ça, je savais justement que Kat était vraiment, elle traversait un passage à vide. Elle était loin des siens. Elle allait pas très bien. Et donc pour lui remonter le moral, j'ai décidé de lui écrire une histoire rien que pour elle. Donc c'était une petite histoire d'aventure. Donc une mère et son fils qui partait à l'aventure, et il rencontrait un personnage qui s'appelait A.A.L.
And so when I sat down to actually take responsibility for all of those details I had thrown in, I thought of that kitten and I called Kat and I said, I said I would never publish that story, but could I have A through L? Would that be okay? And she said yes. And so actually the dragon on the cover was originally meant to be a cat. A giant cat, but it didn't seem cool enough, so he ended up being a wyvern. But there are a lot of things in fairyland like that. Because it was never meant to be published, there are a lot of little gifts to friends of mine in it, and references to things that happened years and years and years ago. Even September's name was meant to be a little present.
Oui, donc voilà, comme je le disais, à cette époque, je pensais pas du tout avoir assumé quoi que ce soit après, et donc j'ai continué voilà à créer un petit peu tous ces détails qui allaient donner la série Féerie. Et donc quand je m'y suis mise, j'ai repensé justement à l'histoire de A.A.L. Donc j'ai oublié tout à l'heure de préciser que c'était un chaton en fait. A.A.L. parce que Kat, s'appelant Kat, qui veut dire chat. Et donc j'ai demandé, au moment où je commençais à écrire Féerie, sérieusement, si je pouvais utiliser ce personnage que je lui avais donné, que j'avais créé pour elle, qui s'appelait A.A.L. Elle m'a dit, bah oui, pas de problème, vas-y. Et donc, bah, ce dragon que vous voyez ici, là, sur la couverture, il aurait dû être un petit chaton. Mais en fait, bon, c'était pas assez cool au final, donc il est devenu un dragon, ou plutôt un vouivre. Et donc, il y a plein, il y a tout un tas comme ça de petites histoires comme ça, un peu en coulisses, de cadeaux que j'avais fait à mes amis, puis de référence à nos amitiés qui datent très très longtemps, qui se sont immiscées dans le livre parce que je pensais qu'il ne serait jamais publié de toute façon. Et même le nom de Septembre, en fait, c'était un cadeau.
My oldest friend in the world, when she was very young, had written a few little stories. She's not a writer at all now. And the main character was named September. And so that had been a present to her. And then I had to apologize for taking that name. It was not meant to become what it did. So it's a book full of inside jokes that became outside jokes in a huge way.
Oui, donc ma plus vieille amie au monde avait écrit plusieurs petites nouvelles quand elle était jeune. Elle n'est pas du tout devenue écrivain hein, depuis. Et en fait, personnage, la protagoniste d'une de ces nouvelles s'appelait justement September. Et donc, quand j'ai emprunté ce nom, c'était un peu une sorte de dommage à elle, un cadeau. Mais ensuite, par la suite, j'ai dû m'excuser auprès d'elle d'avoir utilisé le nom de September. Donc, voilà, y a, en fait, ce livre et cette série, c'est vraiment tout, l'histoire de blagues à part, en fait, de private jokes, de blagues entre nous, qui sont finalement devenues des blagues voilà, révélées à la face du monde.
Alors, là, nous avons la chance de pouvoir déjà lire le deuxième volume de la série. Et il m'a semblé, vous me direz si je me trompe, que dans le second volume, le ton change très légèrement et que c'est peut-être un tout petit peu plus sérieux, je dirais pas sombre, mais même un peu plus sérieux avec Halloween comme personnage.
So in the second book, September had given up her shadow to save a little girl in the first book, and it follows her shadow in the second book down into the underworld. And so September goes there and meets the shadows of everybody that she knows in Fairyland, including her own shadow, whose name is Halloween. But the shadows aren't actually necessarily meant to be dark versions of these people. It's just whatever you keep secret. If you keep your best self secret, if you keep your happiness secret, then your shadow will be a good and happy thing. But if you keep your cruelty and your violence secret, then that's what your shadow will be. So your shadows are just your secrets.
Oui, donc dans le second volume, à la fin du premier volume, Septembre avait décidé de renoncer à son ombre pour pouvoir sauver une petite fille. Et puis ensuite, elle a suivi son ombre jusqu'à l'au-delà. Et ici, là-bas plutôt, elle a rencontré l'ombre de tous les gens qu'elle avait connus depuis qu'elle était née. Et elle a même rencontré donc sa propre ombre à elle, qui s'appelle Halloween. Mais en fait, les ombres que j'ai créées ne sont pas forcément des visions plus sombres des personnages. C'est plutôt leur jardin secret, un petit peu ce qu'ils essayent de refouler. Par exemple, quelqu'un qui aurait du mal à laisser éclater la part joyeuse de lui-même aura une ombre plutôt joyeuse et plutôt claire, en fait. Mais à l'inverse, quelqu'un qui essaye de justement réprimer sa cruauté ou la violence qui est en lui aura une ombre plus dure.
Alors, le temps a tourné très très vite. Donc simplement, pour conclure, je voudrais dire, l'éditeur de Catherine Valente m'a confirmé qu'on allait pouvoir lire très bientôt le troisième volume qui est en cours de traduction, et la série en anglais est déjà complétée. J'aimerais quand même, pour vous mettre en appétit et vous faire attendre un petit peu, il y a le quatrième volume de la série est une sorte de volume miroir des précédents, puisque The Boy Who Lost Fairyland, on notera au passage que Catherine Valente a décidé de faire des titres plus courts. Et ils nous ont dit un petit mot, parce que c'est l'opposé de Septembre.
So that's actually the fourth one. But yeah. So whereas these stories are all September going from our world to Fairyland, The Boy Who Lost Fairyland is a reversal, where a troll is kidnapped from Fairyland and brought to our world and becomes a changeling and is forced to deal with the insane magic of politicians in Chicago and going to the first day of school and all of the rules that are so difficult to understand in our universe, just as magical rules are difficult to understand in that one. But it all connects. He is a character that connects to September in the end and throughout the last book in the series.
C'est donc le quatrième livre de la série, et c'est vrai que c'est vraiment l'opposé, oui, de Septembre, parce que justement ce jeune garçon, donc là où Septembre qui était une jeune fille humaine qui se faisait emmener à Féerie, bien là c'est l'inverse, c'est un jeune troll qui lui se fait embarquer jusqu'à notre monde réel à nous, et donc il y découvre toute une sorte de magie, ce qui peut paraître magique pour lui. Donc il se retrouve à Chicago, en plein milieu de l'actualité politique un petit peu houleuse. Il doit aussi faire face à la rentrée des classes, et tout ça, et découvrir tout un tas de règles, de lois qui sont très 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 dures à intégrer pour lui. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça recoupe vraiment l'histoire et les personnages qu'on découvre avec Septembre dans les trois premiers tomes.
Merci beaucoup, Catherine Valente.
Merci.
Merci pour votre gentillesse et merci pour cette série.